Radio Campus. Radio Campus.
88.3.
Radio Campus. Radio Campus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Campus. Radio Campus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Campus. Radio Campus.
Ce sont des êtres humains à part entière. Ils sont là pour permettre d'atteindre un nouveau stade de développement spirituel.
Ça alors, c'est incroyable.
88.3.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans. On est ravis de vous retrouver dans Écoute ta fac et au programme comme chaque jour. On commencera avec un petit flash actu, un petit tour de la presse d'aujourd'hui, avec des infos internationales, nationales et locales, préparées avec toute la rédaction, Lucas, Faustine, Juliette et Lucie. En deuxième partie, puis on enchaînera avec l'interview du jour et on recevra Aurélie Plot et Eric Amrofel, c'est bien ça si je ne me trompe pas sur les noms. En deuxième partie d'émission, votre rendez-vous du mercredi avec JML, voilà, c'est le rendez-vous slam. Et enfin, un autre rendez-vous que vous retrouverez maintenant tous les mercredis, c'est la question bam 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 avec les filles. Juliette et Faustine, voilà, c'est le programme dans Écoute ta fac et c'est parti, on va commencer comme chaque jour en musique avec le titre, Juliette.
Flight Attendant.
Got 20 plus models on that bitch's man. Well, bitch, you crazy getting a 9-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- 거짓말 나를 때 안 하면 this shit now 언젠가 리비행 fake oxygen은 pumped 옆자리 bitches bunch of cunts 중간에 껴서 잠깐 좀 박아 새끼네 팔걸이 거는 꼬리 아님 these babies fucking man 아님 옆자리 코골 때 아님 복도 자리를 탐하나 주머니와 자리 바꿔 들을 때 from fucking Shanghai to Melbourne to Tennessee Chattanooga I fucked with my city my hometown my song let's get it Fucking no man, I don't like no changes. I don't need no plans, wanna buy no more tickets. Fuck flying hair when I'm dead, don't be it. Prevalent domestic, them tickets, you keep it. Boss, I name Jaga, young bitches, I pick up and bitches, they hate me, and bitches, they bitching and chasing their dollars, and bitch, I ain't paying though. Pay your shit, I ain't eating that. Yak, but ditch, you don't want, I ain't grimming 10. Boom, 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 boom when I'm on the thing. I don't even think fucking, I just wanna land in. 제발 같은 시차, 제발 같은 집. 제발 같은 시차, 집, 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 집.
Et c'était le titre Fight Attentat à notre antenne. On va désormais passer au Flash Actu. Bon, avec un petit souci technique apparemment au niveau du lancement du Flash Actu. On va essayer une dernière fois et puis si ça marche pas, on va vraiment passer au Flash Actu. Ok, eh ben c'est pas grave, on n'aura pas de petit lancement pour aujourd'hui, mais on a Faustine qui, elle, a bien ses lancements de près.
Évidemment, et je suis capable de vous parler de l'actualité internationale. Et on commence malheureusement aujourd'hui avec de mauvaises nouvelles internationales. On part en Ukraine avec de nouvelles frappes mortelles dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih. On m'excusera pour mon accent approximatif. On a eu 11 morts au total à la suite de cette frappe nocturne du mardi 13 juin. Cette attaque massive de missiles a touché donc plusieurs endroits de la ville industrielle et notamment un immeuble résidentiel selon les autorités locales. Cet immeuble qui s'est enflammé et effondré. On va maintenant passer à Rodrigue qui va maintenant nous parler de la Chine.
Eh oui, on part en Chine où actuellement se creusent des forages, l'un des plus importants avec une profondeur de 11 000 mètres, soit près de 10 km de profondeur. C'est le deuxième forage le plus profond au monde jamais réalisé, avec un objectif principal d'étudier la croûte terrestre selon l'agence de presse de l'État chinois, l'agence de presse qui s'appelle Xinhua. Les experts doutent quant à eux, de l'intérêt scientifique d'un tel forage, puisque l'enseignant américain Edward Sobel, passé par l'école de Stanford, indique que lorsque l'on creuse à des fins de recherche, on le fait tout justement, enfin, on évite de tomber justement sur du pétrole. Les carottages qui seraient effectués pourraient permettre de remonter jusqu'à la période du Crétacé, il y a près de 66 à 145 millions d'années. Lucas, on poursuit avec les actualités internationales.
Oui, on part aux États-Unis. Un procès historique pour le climat s'ouvre dans le Montana. 16 jeunes plaignants accusent l'État du Montana de ne pas respecter sa constitution qui l'oblige à maintenir un environnement propre et sain. En cas de succès, l'affaire pourrait faire jurisprudence et contraindre les États américains à agir beaucoup plus fortement contre le dérèglement climatique. Lundi, la Cour de justice de l'État du Montana a ouvert les audiences dans l'affaire Held vs Montana. À l'origine de cette procédure, 16 plaignants âgés de 5 à 22 ans, donc la jeunesse engagée pour le climat, qui accuse cet État du Nord-Ouest d'enfreindre un article de la Constitution locale. Celui-ci stipule « L'État et tout un chacun doivent maintenir et améliorer un environnement propre et sain pour les générations présentes et futures dans le Montana. » Donc, affaire à suivre aux États-Unis par rapport à la cause climatique. Maintenant, on enchaîne avec les infos nationales avec Faustine qui va nous parler du bac de philo.
Et oui, ça y est, les sujets sont sortis. Sortez vos stylos et préparez-vous à réfléchir. Vous l'aurez compris, c'est donc aujourd'hui que les lycéens en terminale passaient le bac de philosophie, une épreuve de 4 heures dont les derniers viennent tout juste de sortir. Trois questions devant eux. Une explication de texte de la pensée sauvage de Lévi-Strauss ou deux questions. Le bonheur est-il une affaire de raison? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Nous, on vous met au défi d'y répondre et on vous laisse à vos propres réflexions. Et maintenant, on passe à Lucas qui va nous parler de Marlène Schiappa.
Alors, Marlène Schiappa fait polémique en ce moment par rapport au fonds Marianne. Justement, Marlène Schiappa rappelle qu'elle n'était pas dans le comité de sélection du fonds Marianne qui a pour objectif de lutter contre les violences et harcèlements en ligne suite notamment à l'assassinat de Samuel Paty il y a quelques années. Le fonds Marianne a été mis en place pour plus de sécurité et de paix dans le milieu scolaire pour éviter tout ce qui est harcèlement. Face à la commission d'enquête du Sénat, l'ancienne ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, tente de clarifier son rôle dans la gestion si controversée de ce fonds Marianne qu'elle a lancé en avril 2021. L'objectif au début était de lutter contre le séparatisme. Affaire à suivre, l'audition est en cours en ce moment. On vous tient au courant. Juliette, on va passer à une information par rapport aux écologistes à Nantes.
Et oui, c'est un drame lancé par les écologistes qui s'est déroulé ce dimanche au sud de Nantes, un saccage, comme l'affirme la droite. Des militants ont renversé une culture de muguet pour la remplacer par du sarrasin en réponse à l'exploitation industrielle de sable dans le maraîchage. L'action était notamment mise en mouvement par les collectifs Le Soulèvement de la Terre et La Tête dans le Sable, suivie par environ 1 million de personnes. Une action largement critiquée par les politiciens de droite, dénonçant ici une désobéissance civile. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a exprimé son soutien aux agriculteurs touchés par une minorité extrémiste, tandis que d'autres critiques dénoncent que ces collectifs n'étaient toujours pas dissous malgré les demandes. Les militants se sont également exprimés sur ce sujet, expliquant qu'ils cherchaient en réalité à dénoncer l'utilisation intensive de l'eau et du sable dans les cultures. Maintenant, on va passer à l'actualité locale avec toi, Faustine.
Et oui, et c'est sportivement qu'on enchaîne avec la belle victoire de Florent Coquenot, qui a remporté l'or en aviron aux Global Games. Les Global Games sont l'équivalent des Jeux Olympiques en adapté. Le jeune homme, autiste Asperger, a remporté au total 6 médailles d'or sur 6 compétitions à Vichy-sur-la-Rivière, l'Allier. Bravo à lui! Maintenant, on passe à toi, Lucas, avec la sécurité routière dans le Loiret.
Effectivement, comme tu l'as dit, on peut remercier et féliciter Florent Coquenot, qui est originaire du Loiret, un Orléanais. Et par rapport à la sécurité routière dans le Loiret, c'est un petit peu moins joyeux. Les chiffres de la préfecture sont tombés hier. 32 personnes ont été tuées en 2022 suite à des accidents de la route, un nombre d'accidents en hausse sur 10 ans et de blessés également. Le terrible accident du 10 juin dernier qui a fait 3 morts à Fleury-les-Aubrais a remémoré tout cela. Les mêmes comportements à risque sont à déplorer cette année, la vitesse excessive, la consommation d'alcool et de stupéfiants. Les rodéos urbains sont aussi nombreux dans le département. Le sous-préfet indique vouloir éradiquer ce phénomène dans les prochaines années. Voilà, c'était le Flash Actu du jour.
Merci Lucas, merci Faustine, merci Juliette pour ce petit tour de l'actualité dans votre presse. On va tout de suite enchaîner avec l'interview du jour. Mais avant d'enchaîner avec cette interview du jour, on va écouter un petit teaser du spectacle qui se déroulera jeudi à 14h, dont on peut avoir un rendu de scène, c'est bien ça, il me semble.
J'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. Je n'oublie pas, ma chère maman, que tout vient de toi ou de l'absence de toi.
Syphilis,
syphilis,
mal de notre époque,
maladie de Vénus,
absinthe des fous.
C'est un timide et libertine et fragile et robuste. Que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se damneraient pour moi. J'ai eu peur, moi aussi. Et c'est un paradoxe de vivre trop longtemps. Pourquoi ? Mais parce que maman, vivre longtemps signifiait te survivre. Cela m'était insupportable. Tu m'as donné ta boue. Et j'en ai fait de l'or.
Voilà un petit teaser de la sortie de résidence qui sera réalisée jeudi à 14h30. Et donc là, on reçoit nos invités du jour. C'est parti.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Effectivement, on reçoit Aurélie Plot et Eric Amrofel sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on va parler de votre résidence au Bouillon, le centre culturel du campus de l'Université d'Orléans. Justement, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, Aurélie Plot et Eric Amrofel?
Oui, alors je suis donc Aurélie Plot, comme vous le dire. Je suis directrice artistique de la compagnie Jeu est un autre, qui est donc installée à Montargis. Et je suis également metteuse en scène et comédienne.
Je suis Eric Amrofel. Pardon, musicien, essentiellement guitariste, un peu pianiste depuis une trentaine d'années.
Et quel projet vous êtes en train de nous concocter cette semaine au Bouillon? On est curieux de savoir, dites-nous.
Nous sommes en train de travailler à la création d'un spectacle qui s'appellera « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, confidence baudelairienne », qui est donc, comme le titre le laisse sous-entendre, un spectacle portant sur la vie de Charles Baudelaire.
D'accord, c'est très intéressant. On va discuter tout de suite, Rodrigue, pourquoi pas, du terme d'artiste en résidence.
Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi consiste une résidence d'artiste? Quel est l'intérêt de partir, de faire ça?
Alors, une résidence d'artiste, c'est en fait un temps de travail, de création de spectacle. C'est-à-dire qu'un lieu de diffusion, donc un théâtre... un lieu de concert. Après, ça dépend effectivement de la discipline concernée par le spectacle qui est en train d'être monté. Permet à une compagnie, à des artistes, de s'installer dans le théâtre pour travailler. Voilà. Donc là, on est au Bouillon depuis lundi jusqu'à vendredi. Donc on en profite d'ailleurs pour remercier Jean-Louis Talon puis Florenza Vernier pour leur accueil, ainsi que les régisseurs et les techniciens du Bouillon.
Et je suppose que dans votre vie d'artiste assez complète, ce n'est pas votre première résidence.
Non, c'est pas notre première résidence. Et même sur le projet Baudelaire, comme on l'appelle entre nous, c'est pas la première résidence. On est passé en janvier, on était à l'Unisson, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. On est passé aussi par le Hangar, à Chalette-sur-Loing. Et puis, parce que ça nous tient à cœur, on a fait une résidence dans un lycée professionnel de Montargis aussi, en février.
Et Eric, peut-être un plus beau souvenir de résidence à travers toute cette carrière musicale, ça nous intéresse sur Radio Campus.
Un plus beau souvenir, je ne sais pas, j'en ai plein. J'ai des souvenirs très très variés parce que je suis une sorte d'électron libre, je crois. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que mes amis m'appellent dans la musique. J'ai peu d'étiquettes et j'aime bien faire des choses très très variées. Je viens beaucoup de la musique classique et du jazz, mais je fais énormément de pop, de musique bizarre, de chansons. Quand je dis de la musique bizarre, c'est de la musique improvisée avec des effets, avec des objets dans la guitare, qui s'approche plus du sound design des fois que de la musique. Donc un plus beau souvenir de résidence, je pourrais pas dire. En tout cas, toutes les résidences successives qu'on a faites avec Aurélie jusque-là sur le projet Baudelaire me comblent de plus en plus et c'est de plus en plus exaltant. Il y en a une aussi qu'on a faite à l'Alliage à Olivet, qu'elle a oublié de mentionner,
oui,
juste avant
absolument.
Celle du Bouillon là. On est très très bien accueillis.
Et bien justement, parlons-en du Bouillon. Quels sont les moyens mis en place par le Centre culturel Le Bouillon pour vous permettre de vous exprimer et de mettre en œuvre votre projet Baudelaire? Et comment avez-vous été sélectionné peut-être pour être en résidence ici? Quel budget est alloué par rapport à cette résidence? Comment ça se passe? Quel temps de résidence? On est curieux de savoir.
Alors sur la partie technique, je vais commencer à répondre, après je laisserai la parole à Aurélie. On a sollicité le Bouillon parce que c'est une salle qui est vraiment très très belle, qui a une dimension très intéressante pour nous, parce que pour parler technique, une ouverture de plateau de 8 mètres, c'est une dimension un peu humaine entre guillemets, une salle de capacité moyenne mais vraiment extrêmement confortable techniquement, où on peut à loisir travailler le son, la lumière, parce qu'il y a vraiment des super équipements, la vidéo également, parce que c'est un spectacle vraiment pluridisciplinaire qui mêle théâtre, un texte original écrit par Aurélie dont elle va vous parler, de la musique originale que j'ai composée et que j'improvise sur scène, de la vidéo qui est projetée, de la vidéo un petit peu abstraite entre guillemets, elle vous en parlera après, qui a été fabriquée par un réalisateur vidéo qui s'appelle Ryan Dachil, et des effets de lumière qui accompagnent tout le spectacle. Voilà. Donc on est accueillis de manière... on a la réponse parfaite ici au côté... pluri-transdisciplinaire de notre spectacle. Je laisse la parole à Aurélie pour les questions de budget parce que je suis complètement nulle dans l'histoire.
Alors en fait, nous avons rencontré Florenza Vernier il y a un petit moment, en février, je pense, et on lui a présenté le projet Baudelaire. Et donc c'est suite à cette présentation du projet qu'elle a accepté de nous accueillir en résidence. Là, il y a plusieurs manières en fait d'obtenir un temps de travail dans un théâtre. Ça peut effectivement être une réponse à un appel à projet. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui publient des appels à projet, les compagnies candidates au temps de résidence, et puis ensuite le lieu fait un choix. Là, avec le Bouillon, ça s'est décidé après un échange de visu. Avec Florenza Vernier et donc qui nous a accueilli l'idée du projet, le teaser que vous avez diffusé aussi de telle manière qu'elle nous a ouvert les portes du Bouillon. Voilà.
Et d'ordre général, comment se passent les résidences artistiques dans le Loiret? Il y en a, c'est assez nombreux le nombre de résidences. Ça se porte bien le milieu de la culture de création et d'expérimentation dans le département?
Alors, on vit dans un département où il y a beaucoup de lieux de diffusion et beaucoup de lieux de diffusion qui accueillent des résidences et qui accueillent des résidences avec grand plaisir. Après, évidemment, le budget de la culture, on sait ce qu'il est. Hein. Donc, ces temps de résidence ne sont pas forcément synonyme d'un accompagnement ce qu'on appelle une coproduction, c'est-à-dire dès l'instant où un lieu de diffusion met de l'argent sur la table pour accompagner un projet, ben là on parle de coproduction. Donc ça c'est extrêmement rare, ça c'est sûr. Mais voilà, on a quand même des lieux de diffusion, des programmateurs et des programmatrices à l'écoute dans le 45, et voilà, on a de la chance.
Et là, vous êtes au Bouillon, rappelez-nous, jusqu'à la fin de la semaine.
Et on est au Bouillon jusqu'à vendredi en fin d'après-midi. Donc, pour 5 jours de travail. Et l'objectif de travail de cette semaine, c'était vraiment la création lumière. Création lumière et vidéo aussi, comme l'a exprimé Eric.
Maintenant, on va parler du projet Voltaire, du projet Baudelaire, pardon, avec Rodrigue.
Oui, oui. Plus pour revenir sur ce sujet-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a parlé, motivé à imaginer un tel projet sur Charles Baudelaire? Pourquoi ce personnage un peu torturé?
Justement, pour déconstruire le mythe du dandy torturé, misanthrope, colérique, irascible, détestable, qui, en plus récemment, a été... on en a ajouté une couche, je pense notamment au roman de Jean Tellet, Crénom Baudelaire, que j'ai lu et qui m'a, c'est une impression de lectrice individuelle, hein, une critique vraiment personnelle, c'est très subjectif, mais en tout cas ce livre m'a agacée. Et m'a agacée parce que on n'essaie pas de comprendre, en fait. Effectivement, on colle une étiquette aux fleurs du mal. Et puis, on n'essaie pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai voulu exhumer un petit peu. Et donc, je suis allée... j'ai découvert Baudelaire, j'étais ado. Et puis, j'ai recroisé Baudelaire quand j'étais étudiante à 100 mètres d'ici, là, à la fac de lettres d'Orléans. Je suis tombée un petit peu par hasard, mais pas vraiment par hasard, en fait, sur la correspondance de Baudelaire avec sa mère, avec Caroline Opic. Et en fait, c'est la lecture de cette correspondance à une voix, puisque la mère de Baudelaire a détruit toutes les lettres qu'elle avait adressées à son fils. Donc, il nous reste uniquement les lettres que Charles a écrites à sa mère. Donc, j'ai lu ce monologue de Charles à sa mère. Et puis là, je me suis dit, d'accord, les fleurs du mal, elles viennent de là. En fait, elles viennent de la relation à la mère, elles viennent de la relation à la femme. Et donc ce spectacle, ce texte que j'ai écrit, c'est une adresse à la mère. Donc c'est vraiment Baudelaire qui revient de l'au-delà pour s'adresser à sa mère, revenir sur toutes ses blessures, sur toutes ses souffrances, sur tout ce qui finalement aussi, on le sait, hein, nos blessures et nos souffrances nous construisent, nous constituent. Et donc c'est vraiment ça qu'on avait envie de livrer aux spectateurs. Donc c'est un spectacle qui est à la fois biographique, poétique, parce que cette adresse à la mère, elle est émaillée de pièces poétiques extraites des Fleurs du Mal que j'ai choisies en résonance par rapport à certains moments de la vie de Baudelaire. Et tout cela est magnifiquement mis en musique par Eric, mais il va vous parler de sa musique après. Voilà, donc voilà de comment est née l'idée de ce spectacle. Et c'est aussi un spectacle masqué, c'est-à-dire que j'interprète Baudelaire, mais je porte un masque. Un masque qui reproduit le visage de Baudelaire, qui a été construit, fabriqué avec amour par Christophe Legarff. Christophe Legarff qui est aussi mon regard extérieur et mon directeur d'acteur sur ce projet, puisqu'en étant metteuse en scène et comédienne et en étant tout le temps au plateau, mais évidemment on a coutume de faire appel à un regard extérieur pour valider les choix de mise en scène qui s'imposent lors du processus de création.
Et justement Eric, du point de vue musical, comment vous vous amusez de cette confidence de Baudelaire à sa mère et du choix d'écriture d'Aurélie Plo?
Alors, je m'en amuse d'abord en respectant la structure fondamentale. Aurélie a écrit ce texte qui est émaillé de quelques passages, quelques extraits de poèmes des Fleurs du Mal et de quelques phrases, ça et là, de la correspondance de Baudelaire entre Baudelaire et sa mère, dont il nous reste que les lettres de Charles Baudelaire, dont elle parlait à l'instant. Donc, ce que j'y ai lu tout de suite, c'est trois niveaux de lecture. Son texte qui prime vraiment, parce que c'est la plus grosse partie du spectacle. Et puis ces petits emprunts qui viennent s'incruster dans le texte. J'ai pensé la musique de la même manière. Moi, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir deux plans dans la musique. Une partie que j'ai composée pour jouer sur scène à la guitare électrique, avec des loopers, avec des effets, avec des objets. Des fois, j'utilise un archer, j'utilise des objets recyclés qui ne sont pas faits forcément pour la musique, mais que moi j'aime utiliser avec la guitare. Et puis un deuxième plan musical qui est enregistré, que j'ai enregistré parce que je compose aussi pour la musique à l'image, pour des choses comme ça, avec des instruments virtuels, avec un peu d'électro, des choses comme ça. Donc il y a des choses que j'ai préparées et du piano aussi, parce que je joue un peu de piano et je voulais entendre du piano sur ce spectacle. Il y aura du violon aussi. Donc j'ai enregistré des instruments dans un studio, et donc il va y avoir un plan de musique qui va être également diffusé. Donc de la même manière qu'il y a trois plans de texte, il y aura deux plans de musique, le plan en direct et puis le plan pas en direct. Et puis après, comment je me suis amusé de ce texte? En fait, je m'en suis amusé en suivant vraiment les contours, le contenu, et en ne me donnant aucune limite. Mes amis ou les gens qui me connaissent plus ou moins bien me mettre l'étiquette d'un musicien de jazz, mais en fait, je ne pense pas du tout être ça. Ou alors, peut-être je fais semblant un peu d'être ça parfois depuis 30 ans, mais en fait, c'est pas vraiment ma cam, pour reprendre le terme précis d'un camarade programmateur d'une grosse salle de musique actuelle. Là, j'ai laissé aller vraiment toute mon imagination de compositeur vers ce que me disait le texte. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui vont sonner très brutistes, il y a des morceaux qui vont sonner très baroque, des morceaux qui vont sonner très très rock. Voilà. Mon accessoire de jeu, c'est la guitare électrique, à laquelle je vais adjoindre et ajouter plein de choses plus ou moins réelles ou irréelles ou imaginaires, tout en étant une sorte d'alchimiste, puisque c'est un peu le rôle que Aurélie m'a confié, parce que je serai sur scène avec elle. Je joue une sorte d'alchimiste qui vient un peu faire des incantations avec une guitare, avec des fois des sons qui viennent d'ailleurs. Voilà comment j'essaye de jouer et déjouer
pour faire apparaître l'esprit de Baudelaire.
Et de faire apparaître modestement l'esprit de Baudelaire. Et
pour ces derniers instants d'interview, peut-être Aurélie Plo, vous pouvez faire résonner un petit extrait d'un des textes du spectacle, pour, si ça ne vous dérange pas, ou juste nous décrire, voilà, comme ça pour l'auditeur, ça sera assez concret.
Ma chère mère, ma douce, me voici là au bord du précipice, revenu d'entre les morts, au bord de cette falaise fragile d'Honfleur. Me voici sur l'autre rive. Que n'ai-je vécu comme déchirure? Que n'ai-je enduré comme supplice? Que mon âme, inconditionnellement seule et abandonnée, a traversé comme champ de désespoir. Je voudrais aujourd'hui, apaisée, tranquille, bercée par le souffle infini de la mort, te dire tout l'amour que je porte en moi, pour toi, pour ce que nous avons été l'un pour l'autre.
Merci beaucoup Aurélie Plot et Eric Amrofel en direct sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours sur Écoute ta fac. Merci pour
merci
cette interview.
Merci à l'équipe. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Oui, et on le rappelle, on peut assister à votre sortie de résidence jeudi à 14h30. Ce sera au Bouillon. Un grand merci à vous encore d'être passé dans notre émission. Et on enchaîne avec le titre qui pourrait peut-être parler si on décide de ne pas sortir de la thématique de Charles Baudrillard qu'on a traditionnellement avec le titre Psychopath.
Je pense, en effet.
De Virtuous Syndicate. As they were making their hearts merry, behold the men of the city, worthless fellows, surrounded the house, beating on the door. And they said to the old man, bring out the man who came to your house, if we may know him. And the man of the house went out to them and said to them, no, my brothers, psychopaths, do not do this vile thing. Behold, here are my virgin daughters and my concubine. Let me bring them out to you. Violate them, psychopaths. I could you motherfucking ass! Psychopaths.
Yeah.
Look into the light.
Success.
Adrenaline filling my right leg, blood rush through my body and feeling just like head. Lost and considered disgusting, just a second when you boss, I wanna crush you with my caliber weapon. I'm in love with that motherfucker up in the mirror. Give me some drugs and I'm flipping to some killer gorilla, you fucking mugs. Clearing out your villain for skrilling and going nuts, putting slugs up in your figure. I did a couple of tours, I made Skrilla. Jayzilla, I'm a gorilla, I stay iller. Jay's in a league of his own and I came with the eyes of a hawk, knife and a fork, cause you're dinner. Type the report right with the chalk, I'm your killer. You tried to abort mission and had to report missing. I'm back to the war, listen, it's back to the raw spitting. You act like it's your kitchen, I cook them like raw chicken.
My girlfriend's a prostitute and loves it. I'm riddled with diseases just from every time she sucks it. Luckily your boss quit, cannon fire up. Now I'm trying to cut a deal with the Dallas Buyers Club. Sharing needles with the leper like I'm living forever. Head spotted like a leopard, looking redder than pepper. Stomach gutted on the checkered floor, bloody machete. My body parts overboard, throwing up on the jetty. Clinical terrorism, physical hedonism, lyrical separatism, spiritual exorcism, I'm Hannibal Lecter in them. Fuck all the pessimism, I kill all the skepticism. On a level above and you'll never measure with them. Raised in a city of guns, cotton and hella women. Raining on the game while I'm straining to bring the weather with them. Step into the war with a sword and a man of never winning.
Et c'était le titre Psychopathe que vous venez d'avoir à l'antenne de Radio Campus. Il est midi 35. Et avant, on va tout de suite passer à la suite de l'émission avec votre rendez-vous avec Jackson. Pardon, avec votre artiste JML. Je vous prie de m'excuser. Alors, Lucas, tu voulais lancer un peu Jackson.
JML. Merci d'être sur Radio Campus aujourd'hui. On va encore parler de slam. Oui. Et tu vas nous faire un petit texte. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps, musicalement et artistiquement ?
Ces derniers temps, c'est des musiques que j'écoute qui m'ont inspiré et aussi l'actualité. Enfin, je m'inspire surtout de tout ce que je vois.
Et qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué et qui t'a pris l'œil ?
Je dirais plutôt la guerre en Ukraine et aussi la réforme de la retraite, des retraites.
Donc on va tout de suite t'écouter sur Radio Campus Orléans pendant ton instant slam. C'est parti. D'accord. Bonne écoute.
On y va. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir un mandat pour sortir mon agenda et parler de l'enfant soldat. Enfant soldat, privé de ma liberté, privé de ma scolarité, privé de la fraternité, privé de ma famille. Je n'ai personne pour me donner une bonne éducation. Je me laisse éduquer par des munitions. Abandonné par ma nation, oublié par des institutions. Je suis enfant soldat, non par ma conscience, mais par obligation. Je fais des choses par intimidation, par peur d'être massacré. Enfant soldat, mes ambitions sont limitées. Mon destin est conditionné, mon espoir est vain. Je ne me bats pas pour combattre, je ne me bats pas pour mes convictions ou même pas pour une révolution, mais je me bats pour sauver ma peau. Chaque matin, c'est moi qui fais les saluts au drapeau. Si je refuse, on me frappe comme un crapaud. Pas de repos, je travaille dur comme un cacapo. Je suis encore un enfant, mais j'ai des doutes sur ma raison d'être. J'ai des souvenirs de mes meilleurs moments avec mes parents. Je me souviens quand je partais à la foire avec mes parents. Je me souviens aussi quand je partais rendre visite à mes grands-parents, une fois par an. Quand je vois tout ça, ça me rend mélancolique. À cause des soucis, je suis devenu nostalgique, colérique. À l'intérieur de moi, je me demande qui un jour pourra me sauver de cette corvée. Pourquoi tant d'injustices dans ce monde? Cet enfant innocent devenu soldat, il a fait quoi pour vivre ça? Je parle au nom des enfants soldats, je parle au nom des enfants de la France, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Les enfants à l'école, non champ de bataille, même pas dans des marchés de bétail. Je continuerai à défendre les enfants, même dans des marchés, même dans des petits détails. Qu'ils soient grands ou petits en taille, il faut qu'ils aillent à l'école. Ce mot enfant soldat n'a pas vraiment beaucoup de lettres, mais il a beaucoup de dégâts. De nombreux enfants des pays en guerre vivent dans ces cas. Ces enfants ont aussi besoin de l'affection. Ils veulent regarder la télévision, jouer à la PlayStation, jouer à cache-cache. Je termine en disant que la vie n'a pas de brillant. Redonner à ces enfants leur vie, ils sont innocents. Ils en ont marre de voir les seins. L'enfant, c'est l'avenir des demain. JML, la voix des enfants. Merci.
Merci beaucoup, JML, pour être passé sur Radio Campus Orléans.
Je t'en prie.
Merci, JML, pour être passé à notre antenne. On va enchaîner avec la suite de l'émission sur ces belles notes. Et en annonce de votre rendez-vous, bam bam bam, c'est la question femme. On va écouter juste avant le titre Her de Younis. Et c'était le son Her de Eunice que vous venez d'entendre à notre antenne. Et maintenant, c'est le moment. Bam, 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 c'est la question. Avec Faustine et Juliette, merci de nous rejoindre et expliquez-nous un peu le concept. Je vous laisse la parole maintenant.
De pensée qui a été prononcée par un homme. On commence à l'entendre dans les discours politiques du XIXe siècle où il se fait remarquer par le penseur Fourier qui était en faveur du droit des femmes. Et c'est ainsi qu'est créé le fouriérisme qui donnera par la suite le féminisme. Donc en gros, le terme féministe, il sera également répandu à partir de 1872 grâce à l'œuvre d'Alexandre Dumas fils qui s'appelle « L'homme-femme ». Mais si on creuse un peu plus dans l'histoire, le féminisme, ça existe depuis bien plus longtemps. Rien qu'en France, on peut d'abord citer Olympe de Gouges, reconnue comme pionnière du féminisme français dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ailleurs dans le monde, il y avait plein de femmes qui prenaient aussi déjà leur indépendance ou leurs droits. Des autrices comme Jane Austen au XVIIIe siècle ou Sappho qui était bien avant, au Ve siècle avant Jésus-Christ. Qui étaient déjà perçues comme des femmes indépendantes qui n'avaient pas besoin de mari pour vivre ou pour faire entendre leurs idées.
Et puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est qu'on a de nombreuses femmes, on a plusieurs femmes qui ont pu être des dirigeantes marquantes dans l'histoire. On peut citer par exemple l'exemple de Catherine la Grande, qui a été tsarine de Russie, et qui, après avoir monté un coup d'État contre son mari, qui a donc été assassiné, elle s'est faite proclamer impératrice de Russie. Elle régnera ainsi seule pendant 34 ans jusqu'à sa mort. Pour n'en citer que d'autres encore plus connues, on peut retrouver par exemple aussi la dernière reine d'Égypte et pharaon, Cléopâtre. C'est donc là deux exemples marquants que je vous donne, de femmes à la tête du pouvoir, à la tête de leur pays, et ce dans l'histoire. Et tout cela avant même l'apparition du concept de féminisme que l'on connaît aujourd'hui.
Que moi, ce que j'en comprends, c'est que le féminisme, c'est simplement un mot qui vient inscrire dans la langue un concept qui existait déjà depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Rien qu'avec le cas de Cléopâtre, comme tu l'as dit Faustine, les femmes et les hommes sont égaux avant même d'être différenciés par leur sexe. C'est ce qu'on peut en entendre dans la définition. Ils sont également différenciés par leur genre, par leur identité. Ils sont avant tout humains.
Donc finalement, être féministe aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas simplement prôner l'égalité entre hommes et femmes, entre humains? Du coup, j'irai vers cette définition qui est de prôner l'égalité entre humains, tout simplement. Il n'y a pas un être qui est moins capable qu'un autre. Et le féminisme, ça ne date pas d'hier. Et pourtant, après toutes ces années, on continue de se battre pour ce mouvement. Ça prouve bien qu'il y a plus de choses à dire qu'on ne le pense, n'est-ce pas Juliette?
Eh oui, mais surtout la question à se poser, c'est le féminisme, comment ça se passe aujourd'hui? Avec tous les mouvements, le féminisme évolue et se développe avec le temps. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les générations précédentes ont révolutionné le droit des femmes. Révolutionner, c'est le mot, mais n'oublions pas que ce n'est pas fini, parce que ce n'est pas forcément suffisant. Il y a toujours des différences de salaire, une décadence aujourd'hui du droit de l'avortement, comme tu l'as mentionné en début d'émission, à l'international et même en France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être féministe, c'est encore mal vu par la société.
Après, c'est juste un avis personnel, mais c'est ce que je vois, c'est que des médias qui décident de ne montrer que des femmes seins nus dans la rue ou d'autres séquences totalement non représentatives du mouvement global. Aujourd'hui, quand on est féministe et qu'on le revendique, on devient tout à coup extrémiste.
Et oui, je suis bien d'accord. Moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue, où je suis devenue très rapidement extrémiste aux yeux de plusieurs personnes d'un groupe d'amis. Où, en fait, dès que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour dire que le viol était un crime, qu'on ne touche pas les gens sans consentement, et que je proposais à mes copains et mes copines de porter plainte dès qu'il y avait une agression sexuelle, bah, j'étais devenue extrémiste. Dans l'idée, en fait, au début, les gens étaient d'accord avec ces concepts-là, mais dès lors que ça a commencé à concerner des personnes dans ce groupe qui étaient devenues agresseurs, et bah, tout de suite, on devient extrémiste. Et elle est là aussi la nécessité du féminisme aujourd'hui. Et je dis bien nécessité, hein. C'est qu'il y a des progrès dans la loi, voire une égalité et une justice en progression qui est écrite. Mais dans les mœurs, dans les faits, ce n'est pas encore le cas.
Et aussi, féminisme, ça peut, je pense, aller au-delà de l'égalité, mais c'est aussi dédiaboliser le personnage féminin qui s'est construit dans l'histoire. Je peux prendre par exemple des mouvements aujourd'hui féminismes qui vont notamment dénoncer la dédiabolisation des sorcières qui sont souvent les héroïnes, enfin pas les héroïnes du coup, mais un peu des diablesses dans les histoires d'horreur, mais qui cachent pourtant un aspect féminisme qui peut être passionnant. Le féminisme remet aussi en question la société en créant une introspection sur la présence du patriarcat dans nos vies.
Et on vous remercie bien pour votre écoute de cette première émission chronique de « Et bam bam bam, c'est la question femme ». Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci Faustine, merci Juliette. Est-ce que vous voulez réagir un peu, les garçons, ou pas sur cette nouvelle chronique ?
Oui, moi ce que je trouve intéressant, c'est l'angle que vous avez apporté à la fin sur les sorcières. Parce que notamment, on n'est pas loin du Berry, et il y a eu de nombreuses enquêtes sociologiques par rapport à la place des sorcières, les croyances, etc. Et puis sur l'angle féministe aussi, comme vous l'avez dit, la femme est souvent vue comme une hystérique, une folle dans les mœurs, etc. Et c'est bien dommage. Et la sorcière prend cette image-là. Et justement, dans l'analyse sociologique de Jeanne Fabre-Sada, ethnologue, elle essaye, avec son terrain d'enquête, de déconstruire ces clichés-là sur le point de vue du genre, parce que c'est assez tenace. Et vous, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est... ça vous est déjà arrivé d'entendre ces clichés de femmes sorcières, où on pense par exemple à Jeanne d'Arc dans l'histoire, et comment vous réagissez par rapport à ce cliché de folle qu'on assigne aux femmes?
Bah,
oui, en fait... alors, tu veux commencer Juliette? Je te laisse faire.
Bah, moi, je trouve que l'exemple des sorcières, il est assez intéressant parce que ça dépend après dans quel type d'histoire on le met. Mais je trouve que dans la plupart des histoires, on voit souvent un point de vue masculin, donc ça aide souvent à prendre la femme pour une folle. Mais après, il y a maintenant des films ou des séries où on va... par exemple, la série Outlander, il n'y a pas vraiment de sorcières, mais c'est des femmes qui sont... elles sont guérisseuses. Et elles, on va vouloir leur faire du mal, tout ça, enfin, limite les brûler, les tuer, juste parce qu'elles connaissent juste des plantes médicinales, en fait, qui peuvent guérir des gens. Du coup, je trouve ça assez alarmant. Et surtout, ça prouve qu'il y a un énorme manque d'éducation sur en fait, l'égalité des genres et au niveau de l'homme, enfin, de la pensée de l'homme, je veux dire, à l'époque. Et puis... encore aujourd'hui, je trouve ça dommage que malgré tous les mouvements féministes qui ont été mis en place durant les dernières années, il y ait encore des gens qui aient cette vision de la sorcière, d'une personne hyper diabolique, folle, tout ça, mais qu'ils n'arrivent pas à voir un peu au-dessus.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que... déjà, la sorcière, ça nous fait tout de suite penser à une femme. Il existe des sorciers, mais ce n'est pas du tout le même mécanisme de représentation.
Ouais, c'est sûr.
Déjà, rien qu'au niveau du corps,
on va avoir soit une sorcière extrêmement laide, soit le terme c'est carrément sexy. Ouais. Enfin, il y a vraiment deux ambiances, deux salles, deux ambiances. C'est soit elle sera la plus immonde possible, soit elle sera super sexy. Alors que le sorcier, on n'a pas forcément cette image-là. Le sorcier est plus connu pour ses pouvoirs, justement, et pour ce côté diabolique, méchant, mais pas ce côté impur et carrément sexuel aussi.
Et puis la femme, c'est intéressant. Et puis la femme aussi, elle est, donc, comme tu dis, elle peut être très sexualisée par son côté sexy quand elle est sorcière. Et on peut surtout prendre l'exemple de Médusa qui est, on va dire, une sorte de sorcière, parce que Médusa, elle attire les hommes, quoi. Donc en fait, ça revient un peu à mettre la femme sur... la femme, elle est juste là pour attirer des hommes, finalement.
Et on pourra parler prochainement de sorcières, pourquoi pas, dans une autre session de « Et bam, 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 c'est la question femme ». Et on vous laissera réagir à tout ce qu'on a pu dire. Et on vous remercie.
Eh ben merci beaucoup, Faustine, Lucas et Juliette, pour vos interventions et notamment pour cette nouvelle rubrique que vous retrouverez donc tous les mercredis. Bam, 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 c'est la question
femme.
Et il est 12h53, on va continuer l'émission avant de la finir avec un petit reportage que Lucas a organisé. Ça concerne, non pas la sécurité routière, je me perds dans mes feuilles, mais...
Ça concerne le concours de nouvelles organisé par le CROUS national. Et hier, c'était le jury au niveau local. Donc 18 nouvelles ont été jugées et lues par un journaliste de la Nouvelle République, notre fameux Daniel Begdad, national de Radio Campus Orléans, et également la responsable du service éducation et société des médiathèques d'Orléans, et deux membres du CROUS Blois et du CROUS Orléans. Donc c'était une rencontre assez intéressante, et on écoute tout de suite Laurence qui va nous parler de ce dispositif organisé par le CROUS.
Alors bonjour, je suis Laurence Guilbeault, je travaille au CROUS Orléans Tours, au Pôle Culture à Blois, et je m'occupe des concours, sauf le concours musique. Donc aujourd'hui, c'était le jury de concours des nouvelles. Alors cette année, c'était le concours Métamorphose au singulier, et tous les étudiants de France, des DOM, tous les CROUS, des 26 CROUS, ont travaillé sur ce thème par le biais de leur plateforme et services étudiants.gouv. Et le CROUS Orléans Tours, lui, a fait le choix d'un jury pluridisciplinaire qui soit lié avec l'écriture. Donc c'est pour ça qu'on avait Radio Campus dans notre jury. Et qui est en fait construit selon la ville où il se situe. Comme on est en fait à l'échelle académique, on fait ce concours, ce jury à l'échelle académique. On se déplace. Cette année, c'était Orléans avec la médiathèque d'Orléans, l'ABU de Lettres, Radio Campus, le média quotidien régional La Nouvelle République, la voix de notre président élu étudiant. Et puis voilà, donc ça compose un jury. Moi, je crois que les étudiants étaient vraiment inspirés. On a une vingtaine de nouvelles à l'échelle académique. Et c'est vrai que le thème métamorphose, c'était un peu pour eux l'occasion de s'emparer d'idées qu'ils avaient à dire, parfois de combats personnels. Donc on a eu des thématiques sur la religion, sur l'inceste, sur donc des choses un peu noires. Voilà, donc peut-être aussi des souhaits d'avance ou de progrès sociétaux, on ne sait pas. En tout cas, c'était assez revendicatif cette année, c'est vrai, sur le thème métamorphose.
Et quelle va être la suite de ce concours ? Donc là, c'était à l'échelle académique. Et ensuite, où est-ce qu'on pourra retrouver les lauréats du Centre-Val de Loire ?
Alors, on les retrouve sur messervicesetudiants.gouv. Donc, c'est messervicesetudiants.gouv.fr. Sur étudiants.gouv aussi, sur les réseaux sociaux du CROUS. Et puis, nos deux lauréats nationaux, régionaux seront... sélectionnés en octobre, en fait, feront partie de la sélection en octobre en national. On sait aussi que l'année prochaine, les étudiants vont travailler sur le thème espoir au pluriel. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine, dès la rentrée, à partir d'octobre, pour travailler sur espoir sur la plateforme messervicesetudiants.gouv.
Merci beaucoup, Laurence, et puis bonne journée.
Merci aussi. au revoir.
C'était Laurence du Crous d'Orléans-Tours qui nous a parlé du concours de nouvelles. Et hier, il y a eu lieu le jury pour sélectionner les deux nouvelles qui vont s'affronter au niveau national.
Merci Lucas pour ce petit reportage, dernier reportage de la journée. Il est midi 58 sur Radio Campus Orléans. L'émission va prendre fin. À 14h, retrouvez l'art qui parle de notre temps jusqu'à 15h. Puis, ce sera Le Moulin à Parole, votre hebdo de restitution d'ateliers d'éducation aux médias. De 20h à 21h, ce sera La First, l'hebdo musical hip-hop avec quelques invités. Et de 21h à minuit, retrouvez La Classe Internationale, votre hebdo musical groove du monde. Voilà. On se retrouve quant à nous demain, temps écoute ta fac, et même si ça paraît surnaturel et complètement irréalisable, on enchaîne avec le titre Unreality de Voiski. Voilà, on se quitte là-dessus. Bye bye.